Bonjour et bienvenue sur Paris Central. Alors là, je suis avec tonton. Peut-être Rekoba va nous rejoindre et peut-être une guest star de RMC. Mais tout ceci est en cours de négociation alors qu'on a commencé à aller pas chercher à comprendre. On sort d'un match peut-être un peu mieux que les précédents, mais pas non plus fou. On va le débrief tout simplement. J'espère que tout le monde va bien. Et bon, on va commencer direct, hein. Tonton, comme il n'y a que toi pour l'instant, je vais commencer par toi. Qu'as-tu pensé du match?
Un match, comment dire, assez étonnant dont le contenu ne reflète pas les statistiques. On est sur le match où le PSG a le plus tiré depuis le début de la saison. Et étonnamment, ça ne s'est pas vu dans le contenu. Je sais pas pour toi, mais des périodes où je me suis quand même pas mal ennuyé, même si la satisfaction, c'est de voir que certains joueurs ont été plus à l'aise ce soir avec le dispositif utilisé. Mais je trouve que c'est quand même à relativiser parce qu'on a joué contre trois qui n'a gagné qu'un seul match depuis janvier. Donc, je sais pas trop quoi en penser, je suis un peu mitigé pour être honnête.
Après, moi j'ai vu du mieux, mais le problème c'est que, comme souvent, j'ai vu du mieux pendant un quart d'heure en première mi-temps, puis ensuite de ça, toujours ce problème de staticité des joueurs, les joueurs qui bougent pas, les appels qui disparaissent, etc. etc. Et en deuxième mi-temps, on a vu un peu mieux 20 minutes. 20 minutes où c'est clairement solide, puis on recommence à être un peu en dedans, mais là il y a trois qui revient un petit peu, donc il se passe des choses, il y a une animation. La deuxième mi-temps était beaucoup moins purgesque, si ce mot existe, je ne sais pas, purgesque que la première, et donc un peu plus agréable à regarder. Mais c'est vrai qu'en première mi-temps, j'avais l'impression d'être bah, à quoi ça sert de regarder. Et comme tu l'as dit, enfin, les stats à la mi-temps, c'est 16 tirs, 6 cadrés. Une frappe, une cadrée pour trois, et je suis allé vérifier ça parce que j'étais en train de me dire, mais en fait, mes trois, à part le but, ils n'ont pas eu autant d'occasions que nous. Et du coup, je vais vérifier et je vois ça, et effectivement, j'ai pas compris. Et c'est vrai qu'on oublie, il y a eu beaucoup de frappes de Ruiz, notamment qui ont été arrêtées, qui étaient assez vicieuses d'ailleurs. Très très bonne frappe de Ruiz sur ce match-là, avant donc son but. Et voilà, mais on n'en avait pas l'impression visuelle, quoi. On n'en avait pas l'impression visuelle.
Non, tu l'as très bien exprimé. Je veux dire, il y a quelques joueurs qui se sont mis en avant. Tu as cité Ruiz, Vitinha aussi, Warren Zaïre-Emery ont profité de ce match pour se mettre assez en avant. Mais c'est vrai que bah, l'absence de créateur, t'as pas de Messi, t'as pas de Neymar.
Ouais, c'est discutable ça. C'est
Mais
discutable.
je te dis pas que s'ils avaient été là, tu vois, genre ça serait passé beaucoup mieux forcément, tu vois. Mais t'avais
Bah,
l'impression qu'il manquait pas mal de choses à ce PSG, encore une fois, tu vois. Mais bon, on gagne 3-1, tu vois, donc on se rapproche du titre, on fait la bonne opération, tu vois, on va pas
ça,
banaliser le titre.
on va revenir dessus après, mais c'est discutable en fait ce que tu dis, parce que dans le sens où les matchs avec Messi, on en a déjà eu récemment, qui étaient des purges encore plus intégrales que celui-là. Alors je vais finalement cracher quelques stats que j'ai gardées pour la fin du match, mais Verratti à la 67e minute, il a touché 101 ballons. Ça faisait combien de temps que ça lui était pas arrivé en 60 minutes de dépasser la barre des 100, quoi. C'est avec un déchet qui est assez faible. On a parlé de Ruiz qui a proposé pas mal de choses. Après, il y a ce truc-là de ce milieu qui se fait transpercer, qui arrive à rien arrêter, alors que c'est trois en face. Mais si tu veux, toi, tu l'as dit toi-même, c'est en termes de frappe, on est au plus haut depuis je ne sais pas combien de temps. Et peut-être que justement, peut-être que si tu avais, tu vois, c'est clairement, je suis dans du foot fiction, mais si tu avais un Messi, est-ce que tu aurais vu Vitinha aussi haut, qui proposait autant? Est-ce que tu aurais vu Verratti aussi haut qui proposait autant? J'en suis pas si sûr. Et tu peux, alors pas forcément. Ah, ça y est, Recoba nous a rejoint. Et je finis juste, et puis après je vais le lancer. On parle du match, de qu'est-ce qu'on en a pensé. Bah, salut Rico. Et je finis juste donc. Et tu peux en arriver à penser que bah, le fait de ne pas avoir ces créateurs dont tu parles a été, même si le match avait un potentiel purgesque assez fort, a été une bénédiction, quoi. Mais Rico, toi, qu'as-tu pensé du match du coup?
Moi, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça. On m'entend bien?
On t'entend nickel, ouais, c'est bon, tu peux y aller.
Ouais, je m'attendais à ça. Pas un match incroyable, mais une victoire. Je ne voyais vraiment pas perdre ou faire match nul. Ouais, c'est ça, tout simplement. Ouais, désolé pour la qualité et tout. Là, j'ai eu un souci avec mon téléphone. C'est la qualité ordi, là, donc c'est un peu catastrophique. Bref, tant que vous m'entendez bien, c'est le principal. Ouais, donc du coup, je m'attendais à ça parce que ouais, on a affronté une équipe qui déjà N'a pas gagné, je crois qu'ils ont gagné un match début
Ouais,
2023,
c'est
c'est
ça.
tout.
C'est ça.
Donc voilà, c'est très faible, à part Mama Baldé et dans une moindre mesure Ronny Lopez qui fait une très mauvaise saison et Audobert, ils n'ont aucun joueur qui a vraiment le niveau Ligue 1. D'ailleurs, ça a été le cas pour Mama Baldé à Dijon qui jouait tout seul aussi. Et du coup, je suis content pour la victoire parce que déjà on prend 3 points, c'était important quand même, parce
On
que
va
mine de
venir ça
rien.
sur la sur l'impact juste après, mais vraiment sur le match, qu'est-ce que tu en as pensé pour l'instant, vraiment le focus sur le match.
J'ai apprécié parce que j'ai vu plus d'envie déjà des joueurs et on pouvait se dire que peut-être ils allaient pas boycotter, mais tu vois, ils auraient pu traîner les savates comme on a pu voir dans les derniers matchs. Et j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus d'envie quand même, un peu plus de plus d'attaque, plus de projection, plus de mouvement de tous les joueurs globalement. Donc j'étais satisfait quand même pour ça. Après, il y a eu quand même beaucoup de déchets techniques. Même défensivement, on a quand même subi pas mal d'occasions. On aurait pu en prendre un ou deux de plus. Mais j'étais quand même content de voir que finalement, il y avait quelques joueurs qui étaient libérés. On en reparlera, je pense, mais notamment Verratti, Vitinha, etc. Même Ekitike qui a fait un meilleur match, même si ça reste quand même… voilà. Mais voilà, donc globalement, je suis quand même content de la victoire et de la manière, même si franchement, il n'y a pas de quoi, évidemment, s'extasier.
Et pour en revenir sur bah justement là où on en était, tonton disait qu'il n'y avait pas de créateur et que peut-être que ça faisait défaut. Et bah justement, moi, je disais que pas forcément, que c'était peut-être une bénédiction. C'est ce que semble aussi penser Vincent. Que est-ce que pour toi, Messi a manqué le mauvais match ou est-ce que c'est l'absence de Messi qui justement a permis, comme tu le disais, a permis de libérer Viti et Marco?
La question est pour moi?
Oh, bah oui, pour toi. Et puis après, tonton réagira. Mais ouais, la question est pour toi là.
Bah ouais, non, clairement, je pense qu'on l'a vu, mais moi, ce que je retiens surtout, c'est que c'est limite dommageable pour Verratti parce qu'en fait, on se rend compte finalement que Verratti n'a aucun caractère et que du coup, en fait, quand il y avait Messi, c'était vraiment, il lui donnait le ballon et bah voilà, en fait, il s'est jamais imposé dans cette équipe, bridé parce qu'il y avait l'aura de Messi peut-être, parce que ça fait ça aussi avec des grands joueurs comme ça, mais du coup, on se rend compte que quand il n'y a pas Messi… Là, on a vu sur ce match, Verratti, ça n'a rien à voir avec les Verratti qu'on a pu voir précédemment. Il a pris le jeu à son compte. Il a alterné jeu court, jeu long, très précis. Il a touché beaucoup plus de ballons que d'habitude. Il a géré tout le tempo du match. Avec un Ruiz aussi qui l'a bien aidé, parce que Ruiz a joué plus bas sur beaucoup de séquences. Donc, on a vu Verratti beaucoup plus haut. C'est là où je le préfère personnellement. Et donc, au final, on a vu un tout autre Verratti. Donc, forcément, que bah, ce n'est pas parce que Messi était mauvais habituellement ou quoi que ce soit que ça a fait que voilà. Mais la présence de Messi fait que naturellement, il y a certains joueurs qui ont du mal à prendre leurs responsabilités, qui vont lui donner le ballon un peu trop facilement et le laisser se débrouiller. Et ça a été le cas sur les derniers, sur cette saison avec Verratti. Et on l'a vu sans lui, finalement, un tout autre Verratti qui n'a rien à voir.
Je te laisse réagir, tonton, si tu veux réagir.
Ben, quand on voit le schéma ce soir, Vitinha a été présenté comme un 10, mais c'est absolument pas ce que j'ai vu. Je ne sais pas pour vous, j'ai eu l'impression que Vitinha a joué ailier droit. Et ben, je pense que ouais, l'absence de Messi a en tout cas permis à un joueur comme Vitinha et Ruiz, et même Verratti, comme l'a très bien dit Recoba, de se montrer beaucoup plus. La preuve, Ruiz est buteur ce soir, Vitinha est buteur ce soir, Marco Verratti est passeur décisif ce soir. Quand je parlais de créateur, alors je me suis peut-être mal exprimé, c'est dans le sens. Je te dis pas, il faut à tout prix qu'il y ait Messi et Neymar dans cette équipe. Mais tu vois, même quand on parlait de leur départ, je te disais, je te dis pas qu'il faut qu'ils partent pour le plaisir qu'ils partent. Et s'ils partent, il faut que tu les remplaces par des joueurs de très haut niveau. Et peut-être que tu vois, justement, la créativité de cette équipe, elle doit venir du milieu de terrain, logiquement. Et tu vois, genre, un mec comme Vitinha, quand on le signe, il faut le rappeler, il est signé pour être un remplaçant qui, à terme, va devenir titulaire au PSG et va s'imposer. Et finalement, c'est pas du tout le rôle qu'il a eu cette année. Et Fabian Ruiz, finalement, bah, il se révèle très tardivement. Enfin, il se révèle très tardivement. Il a fait quelques bons matchs cette saison, mais il a été sur courant très irrégulier quand même cette saison. Donc, c'est compliqué de savoir sur quoi tu peux t'appuyer pour la suite à travers ce match. Mais en tout cas, oui, Vitinha et Ruiz, ça nous montre qu'il y avait quand même pas mal de mental, de manque de confiance, en tout cas, dans leur début de prestation depuis le début de saison. Parce que quand tu vois leur prestation ce soir, ben, je les trouve au niveau, en tout cas, tu vois. Pour ce
Ouais,
soir.
c'est possible. Alors après, peut-être que la complexité de vouloir jouer par un créateur par lequel tout doit passer, ça te crée des situations où construire ton équipe, c'est très difficile. Je voulais te proposer de réagir sur le commentaire de Vincent. Pour toi, alors déjà, est-ce que c'est lié à la défaite de la semaine dernière? Et est-ce que c'est un match sur lequel tu dirais que tu as vu de l'envie?
Ben, c'est un ensemble, tu vois, genre on joue contre le 19e de Ligue 1 qui est pas très en forme, c'est une réalité. Il y a eu la défaite la semaine dernière contre Lorient, il y a eu les événements qui sont passés avec les supporters cette semaine. Je pense qu'il y a un ensemble de choses qui dit là, clairement, c'était pas le match à perdre, quoi. Je veux dire, Si en plus tu arrivais à perdre justement contre Troyes qui, comme on disait précédemment, a gagné un match depuis janvier, là je pense que vraiment t'avais vraiment une explosion au sein du club, quoi. Donc je pense qu'il y avait plus de faim, ouais, peut-être comme le dit Vincent dans les commentaires, peut-être qu'il y a certains joueurs qui sont sentis bousculés dans leur ego et qui se sont dit, bon, vu ce qui s'est passé, il faut qu'on prouve qu'on mérite notre place ici. Je pense notamment à Ruiz et Vitinha surtout. Mais ouais, peut-être que ça a joué, peut-être.
Est-ce que pour toi, et puis au-delà de ça, est-ce que tu as vraiment vu de l'envie ce soir, toi, Recoba?
De l'envie, c'est difficile à dire, mais je pense que ouais, c'était surtout des gens, des joueurs revanchards. Il y avait des joueurs comme, il y a des joueurs qui se posent pas de questions, notamment Zaïre Emery, la défense habituelle, etc. Qui voilà, qui se posent pas vraiment de questions. Mbappé aussi, qui avait faim de marquer puisque la Cazette avait mis 4 buts cet après-midi. Donc forcément, pour son titre, il a été quand même beaucoup plus remuant, je trouve, que d'habitude. Mbappé, beaucoup plus d'appels. Ça joue aussi. Et du coup, forcément, ça a été un allant, on va dire. Collectif, parce qu'il y avait un Ekitike aussi qui retrouvait une place de titulaire, qui avait envie de montrer, qui a été quand même très remuant. Et Verratti qui a pris le jeu à son compte aussi. Donc je pense que ça a été vraiment un élan global de tout un collectif qui avait envie de un, se faire pardonner, deux, montrer des choses, et trois, marquer pour Mbappé. Et après, avec des joueurs qui ne se posent pas de questions,
Alors,
ça a donné, je trouve, ce que ça a donné, mais c'est pas non plus incroyable.
ouais, voilà, en fait, moi je vais voilà, je vais pour moi j'ai vu un bon quart d'heure où ce que je disais en fait dans les mots, c'est que tu avais l'impression de voir une équipe qui arrivait à bien jouer ensemble mais qui n'avait pas encore les automatismes nécessaires pour aller assez vite, ce qui est ouf quand tu fais ce constat-là à la fin de la saison. Et passé ce quart d'heure, tout à coup, tu n'as plus aucun mouvement sur le terrain et ça devient
Z.
un degré de purgitude énorme. Et donc c'est assez paradoxal, c'est cette envie. Et alors, au début, je voulais parler des 3 points, mais je vais d'abord justement embrayer sur l'autre sujet avant. Je me permets d'interrompre, de changer un peu l'ordre. Parce que, enfin, toi, comment est-ce que vous rationalisez ce truc qui est quand même assez fou, où tu rentres bien pendant un quart d'heure, tu as de la combativité, tu as de l'agressivité, et puis tu t'écroules, les joueurs ne font plus de mouvement. Et j'ai envie de vous poser une question. On va commencer avec Réco. J'ai envie de vous poser une question. C'est, à votre avis, est-ce que les joueurs ont lâché Galtier, ont lâché Galtier, ou c'est juste qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui leur est demandé? J'essaye de trouver en fait une explication sur ce pourquoi de cet écroulement. Vas-y, Réco.
C'est difficile de répondre. Je pense déjà qu'ils ont clairement lâché Galtier, ça c'est certain. Ça se voit dans les attitudes, sur le terrain, les réactions par rapport à certains discours, certaines consignes. On le voit même à l'entraînement. Bref, tu sens globalement ils ont lâché tout le monde, hein, d'ailleurs, hein, les jeunes comme les cadres, comme tu sens que voilà ils ont lâché Galtier. Mais il y a clairement un truc qui est symptomatique du PSG cette année, c'est les 10-15 dernières minutes de la première mi-temps et les 10-15 premières de... Ah bah voilà, tiens, tu vois. Et les 10-15 premières de la deuxième mi-temps. C'est vraiment ces deux phases-là où, ces deux périodes-là où il n'y a pas de Paris Saint-Germain. Qui mène au score ou pas, le PSG est complètement absent dans ces deux phases-là. Et alors, à quoi c'est dû? C'est difficile de trouver une explication parce que si à chaque fois ça arrivait quand tu mènes au score, tu peux te dire que bon, finalement, il y a une certaine déconnexion, une certaine déconcentration, et du coup, bon, voilà, il laisse un peu le truc. Mais normalement, au retour des vestiaires, tu es censé te remobiliser, tu es censé attaquer pied au plancher pour essayer de mettre un deuxième but, aggraver le score ou alors revenir au score, mais ça n'arrive jamais. À chaque fois, on prend l'eau. Là, on a failli encore par trois et par Mama Baldé prendre l'eau. Donc, ouais, c'est quelque chose qu'on remarque, qu'on a remarqué toute la saison, mais trouver une explication à ça, franchement, j'en ai aucune idée.
Tonton, est-ce que tu veux t'y essayer?
Ouais, alors déjà, je voudrais féliciter Christophe Galtier ce soir. Écoutez, en Mondiovision, on n'a pas pris de but entre la 45e et la 60e ce soir. Le Galtier-Tam est mort, monsieur. On a même marqué à la 59e.
On s'est rattrapé à la 66e.
C'est vrai. Cependant, c'est important à souligner parce que Hitch avait souligné cette stat et il avait raison. Le Galtier-Tam, c'était quelque chose jusqu'à cette saison, enfin jusqu'à ce soir en tout cas. Et là, ce soir, on n'a pas pris de but entre la 45e et la 60e. Vrai motif de satisfaction de ce soir. A-t-il trouvé les bons mots? Non, je rigole. Je suis d'accord avec Recoba. Je pense tout simplement que c'est compliqué pour Galtier. Là, il essaye tout simplement de terminer sa saison, de gagner ce titre, hein, parce que c'est pas dit qu'il arrive à en gagner beaucoup derrière quand il aura quitté le PSG. Et parce qu'on sait que, comme on a dit, il faut sécuriser ce titre de toute manière. Mais là, ça me semble bien compliqué pour les joueurs. Je m'attendais à ce que Zaïre Emery ait un match un peu compliqué, même pour être honnête, vu qu'il ne jouait pas son poste ce soir, et que Galtier en profite pour se décharger sur lui. Manque de peau, ça n'arrivera pas.
Il y a pas mal de commentaires qui reviennent sur la prépa physique cette saison. Et c'est vrai que c'est un sujet. On a des joueurs qui. Mais enfin, comme tu l'as dit, Rico, on n'est pas capable de rationaliser pourquoi il y a cette baisse de rythme et surtout cette baisse de mouvement où tout à coup, tu te retrouves avec un embouteillage au milieu où tu as l'impression qu'il y a 25 joueurs et qu'ils pourraient jouer 10 000 ans et sans qu'il se passe rien avec de temps en temps un long ballon pour Kylian Mbappé. Et est-ce que pour vous, il y a eu une faillite dans la préparation des physiques des joueurs, ou est-ce que la faillite elle est ailleurs à ce niveau-là? Tonton, tu commences.
Bah, je pense qu'il y a une faillite au niveau de la prépa physique. Les joueurs s'en étaient plaints. Et rajoute à ça qu'on a une faillite aussi au niveau du staff médical. On remarque que les joueurs qui reviennent de blessures rechutent assez souvent. Je pense que c'est compliqué en vrai. Je pense que c'est vraiment compliqué pour eux. Je ne sais pas exactement comment ça a été préparé la saison. Je ne sais pas à quoi ressemblait la préparation physique. Exactement, suivez le commentaire. Mais non, non, je pense qu'elle a posé clairement problème cette préparation physique et on ressent justement les effets là en fin de saison, quoi. Les joueurs, ils sont à bout, ils n'en peuvent plus.
Rico, est-ce que tu as un avis sur la question?
Il y a un problème d'intensité aux entraînements et de préparation physique depuis un moment. C'est pas cette saison qu'on voit, qu'on le dit. Je pense qu'il y a plusieurs saisons déjà avant ça qu'on le disait, qu'on faisait la remarque. Il y a des joueurs aussi, il y a énormément de joueurs dans cet effectif qui ont besoin d'être materner, de prendre des coups de pied au cul pour se bouger. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années que c'est le cas déjà. Maintenant, ça pouvait être compensé, notamment en Ligue des Champions, par des coachs qui étaient quand même très bons tactiquement et qui savaient trouver des solutions par rapport à l'adversaire et au rendez-vous, que ce soit Tuchel, Emery ou Pochettino. Mais cette année, la vraie différence, je trouve, qu'on a, et même au niveau des blessures, hein, c'est les années d'avant, pareil, le staff médical, on le remettait en question. Il y avait souvent des blessés, il y avait souvent des rechutes. On avait très, très rarement l'effectif à 100% de disponible. Mais la vraie différence, je trouve, cette année, c'est Christophe Galtier. C'est que tactiquement, on n'a pas l'entraîneur qui est capable de trouver les solutions, de préparer ses matchs, de réagir pendant les matchs à la mi-temps. C'est là le plus criant aussi, c'est que, parce qu'on peut parler de physique, mais du coup, les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, physiquement, tu es censé aller bien. Et pourtant, bah, on n'est pas forcément là, tu vois. Donc, moi, pour moi, c'est vraiment aussi ce facteur tactique-là qui s'est ajouté. Et du coup, s'il n'y a pas le physique, s'il n'y a pas la tactique et que les joueurs, tu as l'impression qu'ils ont envie, mais sur ce match-là, on avait l'impression qu'ils avaient envie, mais qu'ils se découvraient, bah, c'est compliqué de faire un bon match.
Alors, il y a un très bon commentaire ici d'Apollon qui parle effectivement des congés que les joueurs ont. Alors, dans tous les clubs, ils en ont, mais c'est vrai qu'à Paris, tu as l'impression que c'est souvent. Et il y a, par rapport à ce que vous juste ajoutez, c'est qu'à mon avis, il y a une usure mentale. C'est-à-dire que tu es dans un club où tu es en permanence critiqué, tu es en permanence sous le feu des regards et tu es critiqué à juste titre parce que tu produis que dalle. Et tu as une fatigue mentale liée à ça. C'est-à-dire que tu essayes, mais ça marche pas, tes machins, tes trucs. Et puis, au bout d'un moment, tu satures. Il y a Jojo Bar qui nous dit que Galtier est fort en constat mais faible en tactique. C'est assez
C'est le
juste.
vrai paradoxe. Il est
C'est
capable de voir les choses, mais incapable de réagir.
après il voit certaines choses quoi. Il n'est pas capable de nommer non plus tout ce qui se passe. Mais oui, c'est assez juste. Bon bah maintenant on va ouvrir le chapitre. Est-ce que ces points nous font du bien? Ça va être Eko qui commence.
Ah bah oui, forcément, parce que là, tu faisais un match nul. Et d'ailleurs, quand il y a eu 2-1, attention, mais tu faisais match nul, Lens pouvait revenir. Donc non, c'était important de gagner. C'était vraiment important de gagner, surtout contre un adversaire comme 3. Après, le calendrier nous est favorable, donc a priori, ça devrait le faire. Mais on peut se poser la question, si on avait eu des plus gros adversaires pour finir la saison, mais ça aurait pu peut-être être compliqué, en tout cas. Il fallait gagner, donc c'est important. Là, on a 3 points. Normalement, le titre est quasiment acquis. Donc, non, ouais, c'était important quand même.
Tonton.
Bah ouais, en soi, il y avait un match entre Lens et Marseille hier. Le match nul aurait été préférable nous concernant, mais bon, Lens gagne ce match et revenait à 3 points. Oui, on était dans l'obligation de gagner ce match pour être à 6 points, pour prendre un peu d'avance, parce que bah, c'est Lens qui ouvre justement la prochaine journée vendredi soir contre Reims. Et si tu ne gagnais pas ce match, et pire encore, tu le perdais, bah, tu laissais la possibilité à Lens bah, de te mettre littéralement la pression jusqu'à la fin de saison. Donc là, tu as 6 points d'avance. Les matchs qui te restent à jouer, il me semble qu'il y a Ajaccio. Il me semble qu'il faut encore jouer.
Sur mes yeux, je vais te dire ça tout de suite.
Il y a Ajaccio, il y a Strasbourg, il y a Clermont. Donc, pas mal d'équipes en difficulté.
Ajaccio, Auxerre, Strasbourg et Clermont.
Voilà, donc je te dirais que Strasbourg, à la méno, sera le match le plus difficile de cette fin de saison. Tant que tu peux continuer à garder de l'avance sur la concurrence, c'est très très bien. Surtout que bah, on ne sait jamais si Lens fait un faux pas contre Reims ce week-end. Tu peux continuer à mettre de l'avance sur Lens et Marseille ce week-end et sécuriser ton titre à la 35e ou 36e journée éventuellement dans le pire des cas. Donc bien sûr que la prise de points, elle est importante.
Et est-ce que tu penses que le titre est acquis du coup?
À qui, normalement, à part catastrophe, normalement, là, on est censé l'avoir. Et surtout, je pense que, au club, j'espère en tout cas que ça discute du fait que si tu le gagnes, c'est le 11e, qu'il est historique et que tu n'as certainement pas intérêt à le rater, quoi.
Rico, toi, ta vision pour le titre, tu l'as plus ou moins dit, mais pourquoi est-ce que tu penses que c'est plié?
Ouais, mais comme l'a dit Vincent, c'était mieux une victoire de Lens que de Marseille. Donc voilà, il y avait le match nul, c'était mieux comptablement, mais le fait que Lens gagne, c'est déjà un peu mieux que Marseille. Mais effectivement, là, on a 6 points d'avance avec la différence de but, ça fait 7. Donc on a quand même une énorme marge. On va jouer Ajaccio, qui est déjà condamné, Auxerre, qui est normalement à notre portée, même s'il joue le maintien, Strasbourg, qui pourrait être officiellement maintenu aussi, donc peut-être en relâchement aussi. Donc bon, a priori, ça devrait le faire. Mais ouais, ça aura été une saison difficile. Hein. Peut-être que Lens est passé à côté d'un titre pour un carton rouge, c'est ça qui est assez fou. Mais au final, on va y arriver, difficilement, mais on va y arriver. Ce ne sera pas glorieux, mais on retiendra qu'un titre à la fin. Parce qu'au final, dans les futures années, on parlera juste du titre, on ne parlera pas de la manière. Les derniers titres, on n'en reparle pas. On dit qu'on est titré, mais on ne reparle pas de la manière. Sauf les saisons, on a fait des records de points. Mais c'est quand même un titre, je voulais le dire quand même, parce que, tu vois, par exemple, on peut prendre l'exemple de l'Olympique lyonnais, qui a gagné 7 titres d'affilée, si je ne me trompe pas. Et ça fait un moment maintenant qu'ils n'ont pas gagné un titre. Et un titre, c'est un titre. Maintenant, ils restent bloqués à 7 titres. Et je pense que s'ils avaient pu avoir un huitième laborieux, ils l'auraient pris, ce huitième laborieux. Donc, voilà, avoir un 11e titre record, c'est quand même une bonne chose, même si la manière n'est pas là. Ils ont été au moins jusqu'au bout le chercher, et c'est important.
Faudrait tout de même pas que la manière se reproduise plusieurs saisons d'affilée parce que sinon
Évidemment.
ça deviendrait quelque chose de notable. Est-ce que vous devez réagir là-dessus? Est-ce qu'un coach a besoin d'être fort techniquement avec ce type d'effectif? Ne demande-t-on pas. Enfin, est-ce qu'il ne nous faudrait pas plutôt un
Tactiquement,
leader?
je pense qu'il voulait dire un coach plutôt fort tactiquement, mais je veux bien lui répondre. Bah, en soi, quand tu as un coach qui est très très fort tactiquement, bah, ça veut dire qu'il saura utiliser ses
Mais
joueurs au mieux.
non, la question c'est est-ce qu'on a besoin d'avoir un coach fort tactiquement avec ce type d'effectif ou est-ce que notre manque n'est pas plutôt un leader?
Bah, si au fond tu veux faire un effectif que avec des stars et que le projet de QSI c'est de bâtir un
Leader.
effectif que de stars, bah, il te faut un leader, ouais, il te faut un manager. Par contre, si tu veux comment dire, un effectif qui réponde à un coach tactique, bah, faut que tu prennes d'autres types de joueurs et faut que tu cèdes à ses exigences. Donc, est-ce que le PSG ira dans cette voie? J'ai du mal à y croire.
Est-ce que tu veux réagir à la question, Rico?
Bah, c'est un peu opposé le Real et Manchester City. T'es un
Voilà.
Real, tu avais des leaders, et donc à un Zidane, ça suffit. Un Zidane, c'est tactiquement bon, mais c'est pas Guardiola. Donc je pense qu'avec les joueurs que tu as au Real d'antan, bah, ça suffisait avec un Zidane. Après, quand tu as les joueurs de Manchester City, il y a énormément de qualité, mais il n'y a pas forcément beaucoup de leaders, en tout cas aussi charismatiques qu'au Real. Et donc avoir un Guardiola, c'est important aussi. Moi, pour moi, c'est mieux d'avoir la combinaison des deux, d'avoir un minimum de leader et d'avoir un coach qui est fort tactiquement et qui sait réagir. On verra si on aura ça l'année prochaine, mais dans tous les cas, pour moi, c'est un mélange de tout ça.
J'ai envie de vous parler de Pochettino, puis surtout d'Emery. Alors après, on va pas forcément comparer les effectifs, etc. Mais ou même Tourelle, moi que moi j'aimais pas. On s'est retrouvé avec des coachs qui étaient capables, avec des effectifs assez similaires l'un dans l'autre, d'avoir des performances au moins cohérentes en Ligue des Champions, ce que Galtier n'a jamais su faire. Et donc je pense que mine de rien, c'est pour répondre à la question, c'est si tu as besoin d'avoir un mec qui est un minimum capable d'être tactique. Quand on prend Zidane au Real, ou je sais plus, non, c'est Ancelotti. Bah, quand on prend Ancelotti en tactique, c'est pas le dernier né. C'est peut-être pas un tacticien hors pair comme peut l'être Guardiola ou comme peuvent l'être d'autres. Mais y a un minimum de tactique et un minimum de compétences pour comprendre les matchs, savoir réagir comment, etc. est nécessaire. Et je pense que c'est quelque chose d'impératif. Tu voulais réagir, tonton?
Ouais, j'allais dire tactiquement, on a déjà eu des coachs bons tactiquement. Bah, t'as cité Thomas Tuchel, t'as bien fait. J'allais dire pour moi, l'illustration qui symbole le mieux Thomas Tuchel tactiquement, c'est le match contre l'Atalanta. Si Neymar, il n'a pas les pieds carrés ce soir-là, bah, il te résout le problème en moins de 2 minutes et tu trouves la fameuse DEA qui terrorisait l'Europe entière. Donc, on a eu ce coach qui tactiquement était très bon. Est-ce que on a réussi nos objectifs? Non. On n'en était pas loin, en effet. Après, ben, plus ton coach il est bon tactiquement et plus tu peux tirer des choses très intéressantes de tes joueurs et tu peux t'adapter justement à un adversaire qui pourrait te poser problème. Par exemple, Christophe Galtier contre le Bayern Munich, ben, il s'est fait marcher dessus, il l'a vu et il n'a rien fait. Nagelsmann, au match retour, il a vu qu'en première mi-temps, ben, à Paris, ils avaient plus faim que d'habitude. Il a fait des changements tactiques, il a fait des discussions avec son équipe dans le vestiaire. Deuxième mi-temps, ben, on n'a pas vu le PSG contre le Bayern. Ça permet ce genre de choses notamment. Donc moi en soi j'aimerais qu'on ait un très très bon coach, très tacticien, mais après, qu'est-ce que veut QSI réellement? C'est ça la question.
C'est vrai. Je ne peux que valider ton discours. Juste petite faute de goût en prenant Thomas Tuchel en référence, mais ça, c'est un autre débat.
Bah, au
Unai
PSG,
Emery.
alors tu peux, ouais, voilà, tu peux parler de la masterclass tactique d'Unai Emery contre le Barça en 2017, mais il y a eu un match retour. Alors que l'Atalanta, non, tu vois. Donc j'ai préféré prendre cet exemple.
D'accord. Bon, bah, sinon, bah, moi, je vous propose de parler des individualités. Bon, il y en a plusieurs qui en ont parlé. Je ne sais plus à qui c'était, on va dire Aréco. Rico, si t'as trois tops, n'hésite pas à donner tes trois tops.
Bah déjà, je pense à Zaïre Emery. Au-delà du match de Verratti, Zaïre Emery est vraiment celui pour moi qui m'a le plus, bah, pas étonné parce qu'on le savait, mais bon, là, il jouait dans
Il
une
a fait un
position
gros
de
match
piston
là.
droit quand même. Ouais, et au final, il a fait un gros, gros
C'est un
match. Il
gros
se
gros
pose
match.
pas de questions. Il se dit pas, j'ai du temps de jeu, j'ai un peu la pression, faut que je. Non, il fait son match. Il déborde, il gagne ses duels. Il joue, il propose, il a un énorme volume de jeu. Tu le mets à n'importe quel poste, il est bon et à chaque fois il ressort du lot. Donc rien à dire, Zaïre Emery, 17 ans et ouais, un vrai crack. J'espère qu'il aura un peu plus de temps de jeu encore sur cette fin de saison. Je ne sais pas quand Mukiele et Hakimi vont revenir, mais ce serait bien de le voir au milieu de terrain. Et derrière, bah, il y a Verratti qui a fait un match, ça faisait longtemps qu'il ne nous avait pas fait un match comme ça, qui a alterné jeu court, jeu long, qui s'est projeté, qui a gagné du terrain. Donc tu vois qu'un Verratti. Si tu as un Verratti avec des joueurs qui est bien entouré, il peut vraiment faire du bien. Tu lui mets de la concurrence aussi dans les pattes pour pas qu'il se relâche. C'est un joueur quand même, je pense, sur qui on pourrait compter l'année prochaine, même si ça fait débat. Et après, le troisième qu'on pourrait mettre, Vitinha a fait un bon match, mais je pense qu'Mbappé a quand même montré le tempo devant. Il s'est créé beaucoup d'occasions. Il a été remuant, je trouve, un peu plus que d'habitude, même s'il y a eu du déchet. Donc, j'ai envie de dire quand même Mbappé parce que. Bah parce que mine de rien, il tire quand même les. Tu vois, s'il y a Ekitike à côté, qui essaye de marquer, qui fait des choses et tout. Ouais, Mbappé, je trouve qu'il montre quand même l'exemple, même si je suis peut-être trop gentil avec lui ce soir, mais je trouve qu'il a donné le tempo, on va dire.
Alors, avant de te passer la parole, il y a Hassan qui nous demande de parler des arrivées. Le souci pour ça, c'est qu'on ne sait pas encore le coach qu'on va avoir. Donc, ça me semble un peu prématuré. Il y a plein de
Alors non, je
fantasmes,
pense
plein de
qu'il.
trucs. Mais il y a un truc, et il y a un truc
Vas-y.
que j'ai envie de mettre en avant, c'est que n'hésitez pas à aller check la chaîne de Tonton. C'est jeudi midi que tu en parles. Je ne sais plus exactement que tu vas parler des joueurs qui sont libres, qui sont peut-être les bonnes affaires. Et vous
Non, ça
pourrez
c'est demain,
pêcher.
ça justement.
Ah ben, c'est demain. Et ben, n'hésitez pas à y aller et vous pourrez pêcher. Pas mal d'infos sur le sujet. Je te laisse, tonton, attaquer avec tes trois tops.
Alors, j'allais répondre à la question d'Hassan. Je pense qu'en
Ah,
fait, il
pardon.
demandait plus le bilan des joueurs qui sont arrivés l'été dernier, mais je suis pas sûr. Je regarderai à nouveau dans le chat s'il répondra, mais.
Ah, si, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est
Ouais,
ça.
c'est
Bon,
peut-être ça, oui.
on en parlera après. On
Mais en
pourra
plus,
faire un
j'en ai
petit
fait. Tu
bilan.
vois, j'allais dire, tu vois, sur ma chaîne, j'en ai fait une vidéo de ça, justement, le bilan des recrues de
Ok.
Campos.
Bah,
Mais
j'avais pas compris la question.
je mettrai le lien de la vidéo à la fin du live. Mais pour revenir sur mes tops, très peu original, forcément, Warren Zaïre-Emery, 17 ans, ne joue pas à son poste, se projette, intéressant. Il y avait une stat, bon, elle était à la 53e minute, donc je ne sais pas si elle a duré jusqu'au bout. Mais à la 53e minute, il est à 100% de passes réussies, à 100% de duels remportés.
Il a éteint son couloir.
Non, mais complètement, je veux dire, c'est hallucinant aussi de voir la difficulté que tu as à bouger ce mec. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le début de la saison le nombre de duels où il se fait rentrer dedans, mais il est solide sur ses appuis, le mec. Et vraiment, ça, c'est une satisfaction d'avoir un milieu aussi jeune et déjà aussi solide. Ça va être quoi quand il va prendre un petit
Les
passage à la salle là?
cuisses, la ceinture abdominale, ça bouge pas, il est hyper solide.
Mais ça va être hallucinant. C'est lui au militaire. Tu mets à côté d'un milieu technique, ça va être quelque chose plus tard, tu vois, à terme. Mais au niveau de mes autres tops, j'ai envie de mettre Vitinha parce qu'il a pas mal mangé quand même. Bon match encore ce soir, même s'il n'était pas à son poste lui non plus. Buteur un peu chanceux, mais il met des buts qu'il aurait ratés en début de saison. Donc ça fait deux. Tant mieux pour lui. Continue sur cette lancée en espérant que tu en mettras plein d'autres et que tu arriveras enfin à passer ce cap mental qui te manquait en début de saison pour mettre les buts que tu aurais dû mettre et que tu n'as pas mis en début de saison. Et en dernier top, un avec qui je suis dur, n'empêche, je suis méchant avec lui, donc je vais être sympa avec lui pour une fois, parce que par rapport à ce qu'il nous a pondu ces deux dernières saisons, on est sur du haut niveau ce soir. Est-ce qu'on peut parler de Juan Bernat qui s'est même permis une virgule à l'entrée de la surface à un moment? J'étais dur avec lui, j'étais méchant avec
Le
le
mec, il
Juan.
prend des risques avec son genou quand même.
Non, mais c'est ça, je veux dire, attends, t'imagines, le mec, ça fait 2 ans qu'il n'est pas bon. Là, ce soir, il te fait vraiment une super performance. C'est pas la première fois de l'année que je le mets en top, mais. Je vais le mettre en top ce soir parce que lui, pour le coup, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une performance de ce niveau. J'en attendais plus d'autres joueurs, donc je vais la mettre à lui, le dernier de mes tops.
Juste très rapidement pour revenir sur Zaïre Emery, moi je l'ai trouvé bien meilleur que quand il est au milieu justement. C'est-à-dire qu'il y a une exigence tactique et ça me fait, je réagis par rapport à ça. L'intelligence, pour l'instant, elle reste à montrer. Le poste de latéral demande moins de tactique que le poste de milieu et au milieu, il est toujours très très intelligent par sa générosité, par son physique aussi, comme vous l'avez dit. Mais au niveau tactique, des fois, tu sens que ça pêche encore. C'est sans doute un manque d'expérience. Mais justement, j'ai trouvé qu'en latéral, il était presque dans un sans faute. Et je suis un petit peu déçu que vous n'ayez pas nommé Ruiz, qui est sans doute le Parisien qui est le plus dangereux en première période, celui qui les frappe, les meilleures frappes, celles qui ont failli, il a failli être décisif un nombre incalculable de fois et il marque un superbe but en fin de match. Il a eu un gros passage à vide à un moment, mais c'était. C'est pas loin d'avoir été le Parisien le plus dangereux ce soir. Je sais que tout le monde le déteste, mais quand il fait un bon match, faut aussi savoir le mettre en avant. Tonton, enchaîne avec tes flops.
Alors mes flops, pas si facile que ça à trouver en fait. Si, attends, je vais être méchant. Christophe Galtier, je veux dire merci d'avoir fait rentrer Ismaël Garbi, c'est super sympa pour lui, il a dû adorer, franchement. On n'est pas loin de l'insulte. Recoba aussi a une bonne chaîne, c'est vrai, c'est pas
N'hésitez
faux,
pas à aller la voir,
n'hésitez
Recoba
pas.
YouTube.
Mais comment, Christophe, hein, parce que déjà la compo de base. T'aurais pu mettre Marquinhos arrière droit, Danilo central et Warren en 6. Bon, Warren fait quand même un bon match, Marquinhos fait quand même un bon match, Danilo fait quand même un bon match, donc ça lui sauve les miches. Et sinon, je peux mettre l'entrée de Solaire que j'ai pas remarqué. Enfin,
Ouais, il débarque en fin de match, il n'y a plus de match.
ouais, mais bon, voilà. Et non, mais j'en ai pas tant que ça en fait, donc je pense que c'est les deux seuls en fait. Après, il doit y en avoir d'autres, mais moi, ça m'a pas frappé plus que
Très
ça.
rapidement, tonton, donne ta chaîne.
Attends, j'ai copié-collé le lien
Voilà, bah
là.
il va te le mettre
C'est bon. Normalement,
dans
c'est
le
dans le chat. C'est bon. J'ai
lien.
copié-collé.
Et très rapidement, Yachiras qui vous le rappelle, sans déconner, je ne sais pas combien de likes, je ne le vois pas, mais juste faites-le, c'est juste vous tournez le truc. Si vous êtes sur votre télé, vous prenez votre téléphone. Si vous êtes sur votre ordinateur, vous sortez du plein écran, vous appuyez sur le bouton. Et comme ça, on n'a pas besoin de se prendre la tête à vous le rappeler toutes les 5 minutes. En vrai, ça ne vous coûte rien. Nous, on propose un contenu, on essaie de le faire de qualité. Si vous l'appréciez, bah, mettez votre like. Comme ça, le monde est simple. Réco, enchaîne avec tes flops.
Bon, un premier flop, la direction qui a empêché les supporters de se déplacer, de rentrer dans le stade. Pour moi, numéro
Merde.
un.
Ouais.
Même
Ouais,
si.
mais
On en parlera. Bon, bah,
oui,
j'en
on
parlerai
va.
après.
Bah,
Non, mais
ouais.
vas-y, fais-toi plaisir.
Non, non, bah,
Non, non,
c'était mon
non, mais
premier
nomme-le en
flop.
flop. Nomme-le en flop. Et après, on va en discuter justement de ça.
Ensuite, deuxième flop. Je vais mettre. Moi, je vais mettre Bernat parce que je ne l'ai pas trouvé bon. J'ai trouvé le jeu, surtout en première mi-temps, très, très axial. Parce qu'il ne prenait pas son couloir. Et tu vois que quand il y a pas Nuno Mendes, tu ne joues pas sur les côtés. Et Bernat, à part faire des passes en retrait, il ne fait pas grand-chose. Donc oui, il a plus ses cannes, oui, les blessures et tout. Mais ouais, force est de constater qu'il n'apporte rien pour moi. Alors j'ai vu sa virgule aussi, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'il fait? Il va se faire le genou. Mais ouais, à part ça, j'ai trouvé en dessous des autres, tout simplement. Et bon, Ruiz, je le mets pas dans les tops, parce que même si je trouve qu'il a été meilleur que d'habitude comme Ekitike, ça me valait pas un top pour moi.
C'est
Sinon,
juste le plus
je vais
dangereux,
mettre
hein.
Ouais, mais bah, après,
Bah,
Ekitike aussi,
c'est.
on peut dire, tu sais, il a frappé, il... mais c'est pas non plus.
Ah, mais
Il a été
les frappes,
juste au niveau de ses
c'est bien celui qui t'a
transitions,
le
mais
plus
j'ai pas
marqué, tout
trouvé.
simplement.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais il a été juste, il a fait ce qu'il fallait, il a fait un plutôt bon match, mais j'ai trouvé Verratti, Zaïre Emery et j'avais cité Mbappé, par exemple, un peu au-dessus. Et dernier flop, je vais mettre Marquinhos parce que mine de rien, sur quelques interventions, il a été trop léger. Il s'est fait prendre plusieurs fois dans son dos. Et surtout, bah, on aurait pu prendre un ou deux buts.
On a oublié de le citer.
Ouais, mais Donnarumma, moi, je ne le mets pas. Je ne sais pas pourquoi vous vous acharnez sur lui, là, dans le
Non,
chat. Je sais pas.
c'est en top. C'est en top, là, qu'il en
Ah,
parle.
en top.
Je pense, hein.
Non, mais il y en a
Non, il y
qui
en
l'ont
a
mis en
juste...
flop.
Ouais, il y en a un qui l'a
Ouais.
cité en flop, après, que tu...
Moi,
Ah,
bah, en fait, on ne fait
ça,
pas
non,
de clean
pas.
sheet, encore une fois. Donc, ça, c'est problématique, mais ce n'est pas forcément de sa faute. Danilo est mal
C'est
placé. Il est trop proche
On peut
de.
parler des 8 défenseurs dans la surface, on a zéro
Voilà.
marquage sur ce Chavalera, c'est pas mal
Pour
ça,
le
quand même,
coup,
hein, soit dit en...
compliqué d'incriminer Donnarumma. Et puis, il fait quand même un gros arrêt sur la tête de Baldé. Il fait une belle sortie aussi dans les pieds de Baldé, toujours. Donc, tu vois, la défense, au final, c'est un peu fait malmener, mal placé, des fois pris de vitesse. Donc, j'incriminerais plus Marquinhos ou Danilo dans les flops plutôt que Donnarumma sur le coup.
Alors moi je vais te surprendre parce que je vais mettre Mbappé en flop. Il y a Vincent qui faisait plus de remarques par rapport à ça et c'est vrai qu'il avait plus envie, mais que d'imprécision, que de précipitation. Le Mbappé clinique, on se souvient tous du Mbappé de 17 ans quand il arrive et qui vient de Monaco. Il est passé où ce Kylian-là? Pour moi, il est clairement dans le creux de la vague. Il revient au niveau de l'envie, ça c'est positif. Mais
Limite
par
trop
contre,
envie de marquer, tu vois.
oui, bah, complètement. Et il y a des fois où tu sens que ça veut et puis il tente des frappes où clairement ça aura jamais aucune chance de rentrer. Et alors que c'est un joueur qui est assez clinique en temps normal. Et il est dans une période, tu vois, si on compare le duel Haaland-Mbappé, entre il y en a un qui cartonne en Europe et il y a l'autre qui est en Ligue 1, mais quand même des buts, mais il n'est pas dans la période la plus prolixe de sa carrière. Et du coup, je l'aurais floppé. Maintenant, il y a deux sujets. Il y a Marco Verratti, qui encore une fois fait son meilleur match depuis très longtemps, qui a annoncé hier, ou en tout cas l'équipe a eu l'information hier, que Marco Verratti ne serait pas contre son départ, voire serait très favorable à son départ. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que pour vous c'est une bonne idée? Je ne sais plus à qui c'est, donc comment ce qu'il veut.
Tu veux y aller, Rico?
Ouais, c'est compliqué de parler d'une information comme ça. La presse, on a pu voir hein, le discours de Samir Nasri tout à l'heure, hein, qui était très très juste sur Neymar et Mbappé. Donc je commence à en avoir un peu marre, moi, de voir des informations comme ça qui sortent à tout moment, comme ça, qui pop, on ne sait pas trop pourquoi. Comme pour les 4 kilos, d'ailleurs, de ce même Verratti. Donc, que dire, à part que on peut comprendre s'il a envie de partir par rapport à ce qui s'est passé avec les supporters. Après, s'il a du caractère, il se remet en question. Il sait qu'il a fait une mauvaise saison, qu'il peut être revanchard, qu'il vient de prolonger, donc il n'est pas obligé de partir. S'il a envie de partir, dans ce cas, eh ben, qu'il parte. Chaque joueur peut être remplacé. Chaque joueur est remplaçable. S'il a vraiment envie de partir, dans ce cas, qu'il parte, que ce soit pour nous ou pour lui, ce serait la meilleure chose. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment envie de partir? Personnellement, j'en doute.
Tonton.
Bah, comme évoqué par Ekoba, c'est assez étonnant comme nouvelle. Quel intérêt elle a à sortir à ce moment-là alors que la saison n'est pas finie? Je comprends pas trop. Après, si c'est réel, bah merci pour tout parce qu'on parle quand même d'un des joueurs qui a porté le plus ce maillot du PSG avec Jean-Marc Pilanger. Donc tu dois souligner la performance quand même. Après, moi je te dis pas en mode je suis pour son départ, merci, au revoir, casse-toi, tu vois, mais. S'il part, faut le remplacer par contre par un joueur de haut niveau milieu de terrain. Parce que si tu me dis qu'il part et que notre milieu de terrain c'est exactement le même sans remplacement de Marco Verratti, je m'inquiétais très très fort.
Ah oui, c'est comme Neymar et Messi. C'est bien beau de vouloir le départ de Messi, Neymar, Verratti, mais si tu n'as plus de créateurs et de joueurs capables de faire un peu de jeu, de création, qu'est-ce que tu vas faire?
Alors là, le truc, c'est que ce soir, on a la meilleure. Alors après, t'en as mis trois dans le lot, mais on a, comme Tonton l'a rappelé, on est dans le match où on a le plus de frappes. Alors c'est trois en face, mais on n'a pas Messi et Neymar. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça peut faire sens en fait de se séparer certains joueurs. Marco Verratti, c'est quand même le joueur avec lequel on n'a toujours pas trouvé de solution depuis le départ de Thiago Motta. Ça fait combien de temps? Ça fait 8 ans, 9 ans? Je ne sais pas exactement. On a passé notre temps à dire oui, c'est de la faute des recrues, c'est de la faute de machin, c'est de la faute de trucs, c'est de la faute de X, Y, de Z, de W, de machin, de bidule. Enfin, on a tout nommé, mais on n'a jamais nommé Marco Verratti. T'as un moment, quand tu as un problème qui est récurrent avec une personne et que c'est tout le temps de la faute des autres, il y a un moment où il faut se poser la question sur la personne. Je ne suis pas en train de dire que Marco Verratti n'est pas un bon joueur de foot, il nous l'a remontré ce soir. Ce que je suis en train de dire, c'est est-ce que c'est possible, comment est-ce que tu joues avec Marco Verratti? Où est-ce que tu le mets? Tu le mets 6, tu le mets 8, tu le mets machin, tu le mets etc. Et ça fait 8 ans que tu cherches la solution. Donc, si le mec veut partir, moi je dis banco. Alors, je ne vais pas le faire en manque de respect, hein, parce que, comme tu l'as rappelé, c'est limite un Titi plus Titi que les Titi parisiens. Le mec, il est arrivé, c'était un bambino, il a grandi avec le club. Mais bon, voilà, avec tout le respect du monde, tu veux partir.
Ouais, mais après, Zé, tu vois, quand on voit le. Tu parles justement du fait que Thiago Motta est parti, a-t-il été remplacé?
Ça, non.
Alors, tu vois, et j'ai un peu ce truc de.
Je pense que le départ de Thiago Motta coûte beaucoup plus cher que le départ de Marco Verratti.
Non, mais bien sûr, parce que.
Une petite perte de niveau par rapport à Marco Verratti, mais plus de cohérence dans le rôle, ça sera.
Ouais, mais Z, un problème. Ce que je veux dire, c'est Verratti, ça va être compliqué à vendre. À qui tu vas le vendre? À quel prix? C'est une donnée à prendre en compte. Tu vois, je me dis, ok, tu vas le vendre, mais tu vas récupérer qui derrière? Parce que si tu recrutes encore un 8 que tu vas foutre 6, dont ce ne sera pas le poste. Ça va être incroyable, tu vois. Moi, je suis contre le départ de Verratti si tu n'as pas la certitude que tu as un autre milieu de terrain de haut niveau qui vient au PSG pour le remplacer, tu vois.
Il y a un moment, il faut savoir prendre des risques. Si tu n'en prends jamais, bah, tu n'auras jamais de solution.
Non, mais je te dis pas en mode Verratti est invendable, il ne faut jamais le vendre, tu vois. Mais si tu me dis Verratti, tu le vends et tu, je sais pas, genre, t'achètes Fabinho au milieu de terrain pour sécuriser le poste de 6, il n'y a pas de problème. Là, franchement, il n'y a pas de problème. Merci pour tout, Marco, et bonne continuation. Mais si tu me dis, Marco, il quitte le club et on va recruter Seko Fofana de Lens et on va le faire jouer 6, bah, c'est hors de question.
Bien sûr, on est d'accord. Mais le truc, c'est que si tu restes dans le mindset de il faut que j'assure les arrières, machin, bidule chouette, et ben tu vas te retrouver dans ah bon, en juillet, peut-être qu'on peut le vendre, peut-être, etc., etc. Et puis là, tu te retrouves à faire des panic buy. Alors que si tu prends la décision en amont, qu'en mai, t'en réfléchis, t'en parles avec le joueur, t'en parles avec le club acheteur, t'arrives à trouver une solution, t'as le temps de réfléchir, t'as le temps de te retourner. Et à ce moment-là, le monde, il est différent. Et justement, c'est en anticipant un petit peu et en arrêtant d'essayer de bloquer les gens jusqu'à arriver à la date limite où les mecs réussissent enfin à partir et où t'as pas de solution qui est. Grosso modo, une manière de fonctionner depuis très longtemps. Tu parles souvent de Guardiola. Regarde Guardiola, quand un joueur veut partir, comment il se comporte. C'est tout de suite, il n'y a pas de problème. Et on trouve.
Regarde Bernardo.
Alors, il y a quelques joueurs.
Une exception qui confirme la règle.
Il y a quelques joueurs où. Il y a quelques joueurs où. Enfin bon. Et donc, dernier sujet, c'est. C'est les ultras. Alors, on sait qu'il y a, il y a 3-4 jours, on s'était exprimé, n'hésitez pas à retourner voir la vidéo. On en avait parlé de ce qui s'était passé, notamment Neymar et du coup de gueule. Aujourd'hui, il y a de nouveau eu deux banderoles. Il y a eu la banderole, alors je ne me souviens plus de l'intitulé, mais grosso merdo, c'est Nasser aime les billets mais n'aime pas les sup, un truc dans le genre. Et il la place devant le parc et cette même banderole se retrouve à 3. On sait que le Cup ne pouvait pas voyager. Qu'est-ce que t'en as pensé, Réco? Et est-ce que ça a fait évoluer? Ah ben non, c'est Réco qui a commencé tout à l'heure, donc ça va être à Tonton. Qu'est-ce que t'en as pensé, Tonton? Et comme t'étais pas là au précédent, bah juste qu'est-ce que t'en as pensé? Et d'une manière générale, qu'est-ce que tu penses de ce mouvement que mettent en place, en tout cas, certains des ultras?
Bah, en soi, leurs revendications, elles sont légitimes. Tu vas pas leur... Je veux dire, ils ont rien fait, tu leur reproches de ne pas avoir manifesté, ils manifestent, tu vas leur reprocher de manifester. C'est compliqué. Alors après... Il y a un effet de groupe, tout ce qui se passe avec un effet de groupe, c'est toujours compliqué d'arriver à raisonner un groupe, c'est comme ça. Je ne vais pas dire que tout ce qui a été fait, c'est chapeau, j'applaudis dès demain et je valide tout ce qui a été fait. Par contre, je peux complètement le comprendre, tu vois, qu'il y a eu ces revendications-là. C'est compliqué de leur dire qu'ils sont dans le faux. Et quand tu vois la réaction de la direction de « Ah ben, vous avez manifesté contre la direction, on va vous supprimer vos places », en fait, je trouve ça petit, mais d'une gaminerie. C'est, je veux dire, vous avez manifesté, vous n'êtes pas content, on vous punit. Enfin, je sais pas, c'est quoi la prochaine étape? Ils sont interdits de stade jusqu'à la fin de saison et le CUP n'aura plus le droit de venir au Parc des Princes la saison prochaine et tous les mouvements ultra seront interdits au Parc des Princes et tu auras juste, Ouais, mais c'est ça, j'ai l'impression, genre, c'est quoi, c'est la saison prochaine, les gens qui voudront aller voir un match au parc, c'est tu prends ta boisson que tu as payée à 15 euros au bar, tu achètes tes potatoes à 25 balles bientôt au PSG bar, tu t'assois sur ton siège et tu la fermes, mais si jamais tu brandis une écharpe, on va te faire quoi? On va te mettre un coup de matraque et t'exclure du stade. C'est débile. C'est débile.
Et toi, Rico, est-ce que du coup ça a fait évoluer ton avis ou est-ce que tu restes sur la même ligne? Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé aujourd'hui? Quelle est ta lecture de tous ces événements?
Bah moi, en fait, pour moi, ça confirme ce que je disais, c'est-à-dire que le fait d'avoir insulté les maires et d'avoir été devant chez Neymar, même si c'est pas le CUP, eh ben ça, comment dire, ça a gâché en fait le mouvement initial qui était pacifique et qui était bon parce qu'il le fallait ce mouvement. Il fallait venir contester, il fallait que les choses bougent. Donc ça a été bien, mais malheureusement, comme je l'ai dit, le fait qu'il y ait eu des débordements, c'était sûr que ça allait être contre-productif et que ça allait nous desservir. Et au final, quelle est la réaction derrière? Un communiqué pour défendre Neymar, ce qui est normal, mais du coup, rien d'autre par rapport au message, rien d'autre, un message de 3 lignes. Et derrière, les supporters qui n'ont pas le droit de se déplacer, un message froid, juste, merci, au revoir, ne vous déplacez pas, on vous rembourse, c'est pour nous, il n'y a pas de souci. Eh bah, du coup, voilà, c'est au final, c'est contre-productif parce que finalement, tu te dis, bah, il joue juste au con. Derrière, il t'a voulu jouer au con, entre guillemets, à revendiquer. Ah ben, on va jouer au con aussi. Tu te déplaces pas et voilà, on t'écoute pas. Et malheureusement, je pense que tout ça, au final, a été plutôt contre-productif qu'autre chose. Et c'est triste parce que bah, on voit bien, au final, que les ultras, si on peut les appeler comme ça, parce que voilà, on sait qu'ils bah, ils ont les mains liées. Et dès qu'il y a des revendications un peu trop hard, dès qu'il y a des mouvements un peu trop dérangeant, la direction les a dans les mains et fait ce qu'elle veut. Et si elle veut les empêcher de faire quoi que ce soit, elle le fait.
Est-ce que tu n'as pas peur dans ta lecture que tu vois midi à ta porte en quelque sorte? C'est-à-dire que en fait, si tu veux, ce qui s'est passé chez Neymar n'est peut-être pas une excuse pratique, mais que de toute façon, la direction n'aurait pas accepté la moindre critique et que ce qui se serait passé,
Si.
ce qui s'est passé, se serait passé même si s'il n'y avait
Mais
pas eu les débordements que
c'est
tu
exactement
mets en
ça.
avant.
C'est exactement ça, très probablement. Et du coup, c'est pour ça que qu'il y ait des débordements, ça dessert encore plus la cause. Parce que dans tous les cas, c'est très difficile de se faire entendre, c'est très difficile d'avoir des changements, etc. Mais en montrant plus d'intelligence, en faisant quelque chose de pacifique, au moins tu t'exposes pas, tu vois, tu donnes pas de grain à moudre, tu vois ce que je veux dire? Mais le fait
J'entends.
de qu'il y ait des débordements, tu te mets en porte-à-faux et derrière, tu t'exposes et ils ont directement sauté sur l'occasion pour empêcher les ultras de se déplacer.
Ou
Alors que s'il
plus.
n'y avait pas eu ces événements, normalement, il n'y avait aucune raison de le faire. Parce que donner des messages pacifiques devant la factory en soi et chanter, a priori, tu vois, il n'y a pas de
Ah, il
débordement.
l'aurait fait, il l'aurait fait, sois-en sûr.
T'inquiète, ils auraient trouvé un
Ils auraient quand
prétexte.
même.
Ils auraient trouvé un
Ils
prétexte.
l'auraient fait, sois-en sûr. Ils aiment les Qatars, s'il y a bien une chose, alors c'est un peu une supposition, mais j'ai souvent entendu ça, ils aiment pas qu'ils peuvent avoir tort, mais va pas leur dire, quoi. C'est pas quelque chose qu'ils cherchent à mettre en avant, surtout avec quelque chose, je pense qu'ils l'auraient fait. C'est juste que là, ils ont peut-être une excuse un peu plus pratique. Mais pardon, j'ai coupé la parole à tonton qui allait réagir, peut-être pour dire la même chose. Excuse-moi.
Non, non, Rico, non, moi je te rejoins, Raya, sans soi. Je pense que de toute façon, le club essaie de trouver tous les prétextes possibles pour mettre des bâtons dans les roues à ceux qui s'opposent à eux. Et comme le CUP se met à mettre des messages où la direction, bah, c'est censuré, ça me rappelle, tu vois, l'an dernier, quand il y a eu je ne sais pas combien de banderoles où ça a pu critiquer Leonardo, ça a pu critiquer les joueurs, ça a cité des noms, mais comme par hasard, il n'y avait aucune banderole sur la direction. Non, genre vraiment, la direction, il n'y a pas de problème, elle fonctionne super bien. Bah non, les banderoles, tu te doutes bien, ils ne les ont pas laissées rentrer. Et un peu ce truc de, ben, si t'es pas d'accord avec nous, ben, on te censure. Enfin, je sais pas, on est en 2023, j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, tu vois.
Et il y a une chose qui a backfire, c'est-à-dire que si ça avait été le cas, comme tu le rappelles à très juste titre, ils ont au moins un droit de regard sur les banderoles qui passent. Et là, bah, comme il n'y avait pas le cap, ils n'avaient pas le droit de regard sur les banderoles qui passent, et c'est une banderole qui est
Non,
passée.
mais en même temps, je veux dire, on va mettre les faits, on va mettre les choses comme elles sont. T'en connais beaucoup des clubs, des top clubs européens où, genre, t'as pour objectif de
Ouais.
gagner la Ligue des Champions, où ton président, il reste en poste après avoir échoué 12 saisons consécutives.
Non, ça non. Ah non.
C'est clair.
Ah non. Ah non.
Non, 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 je dis ça au
Mais
hasard, tu vois, genre.
le truc, c'est que c'est par exemple, si on prend l'Angleterre, tu n'as pas, t'as plus ces mouvements de supporters. Ils ont été, c'est juste les
Ah
actionnaires
mais
en
ils ont
fait.
fait le tri, hein.
Alors,
Ils
par
ont
contre,
banni tous les hooligans et compagnie, hein.
voilà.
Ouais. Mais dans
T'as
les
que
années, il
des
y a longtemps,
consommateurs.
hein. Dans les
Ah
ans, dans
oui.
longtemps, dans les années
Mais tu as
80
vu
même.
le... Par contre, ils ont mis des prix aussi dans de place.
Aussi.
On n'y est pas encore,
Mais
mais...
c'est ce qu'ils ont fait aussi avec les ultras. Hein. Ils les ont laissés revenir, mais ils ont les mains liées. Ils peuvent
Sous
pas passer les
contrôle.
banderoles. Exactement. Exactement. Donc, est-ce que c'est étonnant ce qui se passe? Bah non. Et eux-mêmes le savent. Ils savaient qu'au premier moment où ils allaient manifester, c'est peut-être pour ça qu'ils ont pris autant de temps aussi, mais ils savaient qu'au premier moment où ils allaient vraiment manifester, vraiment montrer leur mécontentement, ça allait exploser et ils allaient être mis en porte-à-faux et ça va être compliqué pour eux maintenant.
Et justement, vous voyez cette relation cup club évoluer comment?
Évoluer, enfin, quand tu parles d'évolution, c'est que c'est censé s'améliorer, c'est censé être
Ou bah,
dans le
inévitablement, ça va
bon sens
évoluer.
de la chose.
Inévitablement, ça va évoluer. Ne serait-ce que si ça reste pareil, c'est enfin, comment tu vois le truc
Ouais, mais
dans l'avenir?
justement, moi je trouve que le terme évolution est mal choisi parce que ça va être une régression totale, le niveau des relations qu'il y aura entre le cup et la direction. Parce que, attends, j'ai cru voir un truc, je me trompe peut-être, hein, corrigez-moi dans le chat si je dis une bêtise, mais Nasser, il n'a pas déclaré un truc du genre, je paye des gens pour vous parler avec vous. Mais c'est quel niveau de mépris? Tu imagines le niveau de mépris en mode... Non mais j'ai pas le temps pour vous les gueux là, je paye déjà des gens pour parler avec vous. C'est incroyable quand même, je veux dire. Rien que cette phrase, t'auras pas d'évolution. T'auras que de la régression entre les supporters et la direction. Je vois pas d'issue positive à ce qui est en train de se passer en tout cas. À part si, ouais, comme chaque année, hein, il va nous faire un petit discours, le Nasser là en juin, en mode ouais, cette année, ce sera pas comme les autres, vous allez voir. Ça va changer, on a compris. Rendez-vous en mai.
Alors, très rapidement, on peut passer la parole. Je voulais juste réagir au message d'Hassan. C'est oui, c'est fini. Mais il y a un juste milieu. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des débordements au Parc des Princes où tout le monde a peur autour, qui ont effectivement mené jusque dans les drames dans les années 2002. Et il y a tout simplement avoir la capacité d'exprimer son mécontentement par rapport à la direction, parfois en trollant. Enfin, on est dans le monde du foot où c'est pas toujours un langage très fleuri qui naît dans les tribunes. Mais en tout cas, il y a peut-être un entre les deux et on est passé d'un extrême à un autre extrême. Et c'est là où ça pète aussi avec les ultras. C'est-à-dire que à la fois, ok, on est censé juste applaudir bien fort, faire beaucoup de bruit, etc., un petit peu une vitrine pour le club, pendant que sur le terrain, t'es un peu toutes les saisons en train de te ridiculiser au moins à certains égards, à certains moments de la saison, et ça peut générer de la fatigue, quoi. Je te laisse réagir à ça. Donc, Tonton a choisi la ligne noir, c'est noir.
Il
Genre,
n'y a
la
plus
relation,
d'espoir.
elle est cassée. Est-ce que tu as la même lecture, toi, Réco, du coup?
Ouais, j'ai du mal aussi à la voir un peu plus blanche. Je pense qu'on est arrivé peut-être à un point de rupture. Ça fait longtemps maintenant. Je pense que les ultras rongent un peu leurs freins et ils ont décidé de se révolter à juste titre. Malheureusement, peut-être pas avec la bonne manière, mais dans tous les cas, c'est la manière, on va dire, classique. Et de toute manière, effectivement, on peut dire que même si ça avait été une manière plus douce, il y aurait eu quand même une rupture avec Nasser. Et voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être qu'ils auraient trouvé une solution dans tous les cas pour les barrer. Mais je pense que ouais, je vois pas trop une évolution positive parce que je pense qu'aujourd'hui, si tu enlèves toute la tribune, il y aura la tribune remplie dans tous les cas le match d'après parce qu'il y a une forte demande, parce qu'il y aura encore des touristes et des gens pour venir garnir cette tribune. Donc, tu n'auras pas la même ambiance, ça c'est sûr, mais tu auras toujours ton stade plein. Tu auras
L'ambiance.
toujours des ventes de billets sans aucun problème. Et du coup, je pense que Nasser n'aura pas envie de se faire chier, entre guillemets. Et du coup, s'il a vraiment envie de couper, il coupera. Et je vois pas comment. En tout cas, Nasser ne reviendra pas vers eux.
Pour
Donc, il
vous?
faudrait vraiment, pour moi, en fait, juste pour finir, pour qu'il y ait une
Ah,
évolution
pardon, excuse-moi.
positive, il faudrait vraiment que le CUP baisse leur froc. Et je pense qu'on en est arrivé à un stade où ils baisseront pas leur froc à juste titre. Et du coup, je pense que la relation est très terminée, on peut dire.
Mais pour vous, du coup, parce que tu vois, enfin, tu pourrais te demander, Auteuil, tu avais Boulogne qui était clairement, c'était pour les familles, machin. Il y a eu un moment, ça a été ouvert, mais ça s'est vite arrêté comme expérience. Et Auteuil deviendrait quelque chose de familial. Mais en soi, les gens venaient aussi au parc parce qu'il y avait cette tribune qui chantait. Ça faisait partie du truc. Est-ce que tu penses que le Paris Saint-Germain peut se priver du visage supporter du Paris Saint-Germain? Est-ce que le Paris Saint-Germain, est-ce que tu aurais autant de gens qui viendraient d'Angleterre pour venir au Parc des Princes parce qu'il y a la réputation, il y a machin, etc. Si tu enlèves ça, est-ce que tu penses que vous pensez pas que ça pourrait coûter cher au Qatar?
Non, parce que je pense que le stade sera toujours plein et parce que les mecs viendront pour voir les joueurs plus que l'ambiance. Je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs, on va dire ceux qui viennent voir le match, qu'ils soient consommateurs ou pas, hein, ou touristes ou pas, mais je pense que ces gens-là viennent vraiment au stade pour voir plus les joueurs aujourd'hui que l'ambiance du parc. Et donc, je pense que le stade sera plein et dans tous les cas, Nasser y trouvera son compte, malheureusement.
C'est vrai, Barthes, mais justement, il y avait Auteuil. Tonton, t'as la même lecture du coup?
Bah ouais, tu vois, c'est. On en parlait lors d'un précédent live où on disait, ouais, mais si Mbappé, Messi et Neymar partent, qu'est-ce que tu sais que tu rattires à des stars au PSG si tu veux, au fond, faire cette politique de remplir les tribunes avec des consommateurs, fans de joueurs, tu prendras les stars de certains pays et tu feras en sorte que ça donne envie. Je donne un exemple bête, hein, mais imagine demain Mbappé, Neymar et Messi, les trois quittent le PSG, tu n'as plus les trois stars de devant, hein, comment tu vas faire pour remplir ton stade et vendre des places, je sais pas, au hasard, hein, je vais te dire, ils vont t'acheter un Léao, ils vont aller te chercher un Ramos, ils vont aller te chercher un João Félix, je sais pas, tu vois, genre, ils vont toujours essayer de compenser en mode, s'ils veulent continuer cette politique, en tout cas, tu perds tes stars, bah, tu iras prendre bah, les autres stars, celles qui vendent les plus de maillots aujourd'hui, celles qui attirent le plus de gens sur les réseaux sociaux, parce que ça te permet d'avoir une bonne image de partout, parce qu'au fond, c'est ce que veut le Qatar avec le PSG, c'est avoir une bonne image.
Ok, bon, mais c'est possible que vous ayez raison, mais je pense que ça pourrait leur coûter plus cher que
Ah,
ce que
ah mais
vous
si je te dis pas que
imaginez,
c'est ce que
mais
je veux, c'est pas
à
ce que je veux,
voir, de toute
mais.
façon, on va pas jouer les devins. Il y a ce sujet qui est relancé. Dans les faits, il y a eu une troisième offre qui a été faite pour Manchester United et le Qatar était effectivement dedans. Et ils se sont. Mais par contre, Ineos tient la corde, mais le Qatar, a priori, est toujours dedans. Est-ce que vous avez une lecture différente sur ça, sur le dossier Manchester United? Qu'est-ce que vous pensez du dossier Manchester United, du coup?
Vas-y.
Bah, à la base, il y a une règle que l'UEFA essaye de faire
Oh,
sauter, c'est celle qu'un même propriétaire ne peut pas
mais
posséder deux clubs.
c'est. Où il est le sport, quoi?
Non, mais c'est du
Rendez-nous
forcing.
le sport, quoi.
C'est ça, là, on est dans du forcing total. En fait, moi, j'espère que cette règle, elle ne va pas passer. J'espère que le Qatar, ils vont racheter Manchester United et qu'ils revendent le PSG. Parce qu'en fait, vu la valeur actuelle du PSG, ils pourraient se retrouver bénéficiaires à le revendre par rapport à l'investissement de base et l'investissement mis dans le club. Je pense que tout le monde s'y retrouverait. Parce que vu le prix du club aujourd'hui, bah, tu sais que ce ne sera pas Colony Capital qui va le récupérer. Donc moi, je trouve que leur projet, il est sympa. Hein. Il doit plaire à des gens. Hein. Mais moi, je ne le veux pas pour mon club. Peut-être qu'à Manchester, ils en veulent. Proposez votre projet à Manchester et voyez comment ça se passe dans 5 ans.
Quelle est ta lecture du dossier Manchester, toi, Rico?
Moi, je pense qu'il y a une réelle envie du Qatar de racheter Manchester. Après, on l'a pu le voir, ils ont fait des petites manœuvres hein, pour que ce soit une autre entité à la tête et que justement les deux clubs puissent se retrouver dans la même compétition. Donc, je pense qu'il y a vraiment une envie d'y aller. Surtout que l'APL aujourd'hui c'est vraiment the place to be, donc je pense qu'ils ont vraiment envie. Même on voit avec les Émirats qui ont Newcastle et Manchester United, donc je pense qu'il y a Manchester City, donc je pense qu'il y a vraiment une envie réelle du Qatar d'investir
C'est des
là-bas.
Saouds à Newcastle.
Oui, les Saoudiens, pardon. Donc il y a vraiment des grosses entités qui sont là-bas et il manque le Qatar, donc je pense qu'il y a une réelle envie pour eux d'investir là-bas et d'être actionnaire majoritaire. Maintenant, ça fait quoi? Ça fait 12 ans de QSI là, c'est ça? 12 ans, il me semble. Donc, je pense qu'on arrive à un moment où, effectivement, s'ils veulent partir, vu ce qui se passe, vu la régression, vu les conflits, etc., le projet sportif, j'ai envie de dire merci pour les travaux parce que on est quand même un des clubs, top clubs quand même, mondial, il faut le dire. Marketing en plus au top, hein, c'est bien, mais après, on aimerait des titres. Mais du coup, si vraiment ils veulent partir, partez. On sait qu'on ne se retrouvera pas, comme l'a dit Tonton, avec Colony Capital. On pourrait se retrouver avec moins bien aussi, hein. On le voit avec Pietri, hein. Todd Boehly,
J'allais dire, ouais, on peut se
voilà.
retrouver avec Todd Boehly qui sort de nulle part avec. Attends, il y a
Ouais, donc
Abramovich qui est
attention.
disponible. Attends, il y a Abramovich qui est disponible maintenant qu'il a
S'il
vendu
peut,
Chelsea. Ce serait incroyable,
oui,
ça.
ce
Ce
serait
serait
pas mal.
incroyable qu'on récupère Abramovich, ouais. Je
Mais
vais
du coup, oui, on pourrait se retrouver avec mieux comme avec moins bien. Donc, à voir, mais s'il peut partir, bon.
J'ai
Comme
envie
disait
de
Nyx,
faire,
tu sais ce que tu perds,
j'ai
mais tu
envie
sais
de
pas ce
faire
que
une
tu
petite
gagnes.
remarque trollesque avec Abramovic et du coup un petit match en exhibition à Lugansk. Mais bon, on va sortir du troll et on va revenir
Toi, tu vas faire
doucement.
sauter cette feuille, toi.
Juste, ouais, il y a juste un facteur, c'est le PSG vaut 2 milliards d'euros et l'image qu'a le club à l'heure
4.
actuelle. 4, 4,
Quatre milliards et
4
demi a été
milliards.
valorisé,
4
le club.
milliards,
Donc,
bon, ben,
si tu
voilà,
le vends,
j'étais.
t'inquiète, ce sera
Mais
pas Colony
justement,
Capital.
l'image, oui, non, ça, ouais, mais du coup, est-ce qu'on va trouver un acheteur? Parce que l'image du club, elle n'est pas si ouf.
Alors, est-ce que tu vas retrouver un repreneur à ce prix-là? Je pense que oui. Je ne pense pas que tu
Vas-y,
t'attendais à
pourquoi?
ce que Chelsea. Je ne pense pas que tu t'attendais à ce que Chelsea soit
C'est
vendu à 4
l'APL,
milliards.
c'est l'APL, tonton. C'est l'APL. On est en Ligue 1, on n'est pas en
Bien
première ligue.
sûr. Alors, si je n'ai pas fini, je ne peux pas avoir raison. Donc, ça, si tu veux, j'arrête le débat là et c'est plus simple. Mais pour continuer, je ne pense pas que tu t'attendais à ce que Manchester United ait une offre à 6 milliards de la part du Qatar. Je ne pense pas à ce que tu t'attendes à ce que le PSG soit un jour valorisé à 4 milliards alors qu'il a été acheté 70 millions à l'époque par le Qatar.
40.
70,
Ah bon?
je t'invite à. On fera un concours si tu veux, après on vérifiera. On parie 5
Vas-y,
euros sur
vas-y.
PayPal, tu verras.
C'est le même geste pour moi, d'accord.
Mais blague à part. Le PSG, au moment où il a été racheté par le Qatar, c'est un club qui est en très mauvaise posture à l'époque de Colony Capital. Je ne vais pas rappeler les faits de cette période que l'on a tous envie d'oublier. Mais depuis que le club a été racheté, tu es un club qui joue régulièrement, enfin régulièrement, qui joue tous les ans la Ligue des Champions et qui perd le titre au final ben, 2 fois en 12 ans. Donc, tu as quand même un projet assez sympa. Tu es dans la ville de Paris. Et oui, ça a été utilisé comme un gros phare par le Qatar. C'est une des raisons pour lesquelles le PSG a été acheté. C'est que tu es dans la ville de Paris. Donc, tu auras toujours un certain attrait. Alors, oui, tu n'es pas en première ligue. Je suis d'accord avec toi. En revanche, cependant, le mec qui va racheter le PSG, il est dans un club où il sait qu'il peut facilement gagner la Ligue 1 s'il s'y investit correctement. Il sait qu'il peut quand même attirer des bons joueurs. Il sait que le bassin de l'Île-de-France est l'un des trois viviers qui rapporte le plus au monde. Donc, tu peux toujours utiliser ce vivier et l'exploiter pour faire de l'achat-revente et acheter les meilleurs joueurs d'un autre côté, tout en vendant les meilleurs joueurs d'Île-de-France pour continuer à te faire de la maille. Si tu es investisseur immobilier, ben en fait, tu as des entrées dans Paris. Je ne vais pas vous apprendre tout ce que le Qatar a réussi à négocier dans Paris depuis qu'ils ont racheté le PSG. C'est vous qui habitez à Paris, hein. Je ne vais pas vous apprendre tout ce qu'ils ont racheté. Donc, un propriétaire qui rachèterait le PSG et ferait briller le PSG s'ouvrirait une porte d'entrée pour investir dans Paris, tout simplement. Donc, je pense que c'est un ensemble de choses que tu prends en compte quand tu veux racheter le club et je pense que c'est tout à fait crédible de le vendre.
Alors, juste, et après je laisserai Cro, 6 milliards en British Premier League, c'est beaucoup moins cher que 4 milliards en Ligue 1, même si à Paris. Mais je laisse répondre à
À
Cro.
investir à Manchester et investir à Paris, c'est pas la même came non plus.
Ah oui, on est d'accord, mais le truc, c'est que rien que les droits TV, enfin, il n'y a même pas photo, quoi.
Bien sûr.
Réco, je te laisse réagir si tu veux réagir.
Non, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, tonton.
Ok.
Rien de spécial à rajouter, mais si ce n'est que par rapport aux commentaires que j'ai vu passer, et c'était un truc que j'avais dit aussi dans un de mes débriefs face au Bayern, un de mes avant-matchs face au Bayern, où je disais quand même que malgré qu'on ait peu de chances de passer, et on est quand même content de vivre des belles soirées de Ligue des Champions, même si ça se passe souvent mal pour nous. Mais il faut être quand même reconnaissant de ce qu'ils ont apporté. On a quand même un beau palmarès, on a gagné des
C'est
titres, on
ce
a
message.
dominé. Ouais, c'est celui-là exactement. On a dominé plusieurs années où on a fait le triplé. On a quand même vécu de belles soirées européennes et on en vivra sûrement encore, même si ce n'est pas QSI. Donc merci quand même pour les travaux. Il faut savoir quand même le reconnaître, même si cette année c'est compliqué, qu'il y a des soucis avec les ultras, etc.
Alors après, faut pas s'emballer, hein. QSI n'est pas parti, notamment pour. Enfin, on a fait un détour par Manchester United, mais ils ont toujours dit qu'ils voulaient et Manchester United et Paris. Et c'est pour ça que Tonton mettait en avant le fait qu'il y avait cette loi qui essaie d'être passée, mais
D'où
on
le
a bien vu.
rassemble Leipzig.
Attention, Tonton, tu vas devoir faire comme ça,
Ouais,
hein, sinon tu me coupes la parole. Et le truc, mais on a bien vu ce qui s'est passé. C'était mince, j'ai le trou de mémoire. Là, Tonton, tu vas savoir, les deux clubs, enfin le club allemand et le club autrichien qui se retrouvent en Ligue des Champions.
Rassemble Leipzig chez Red Bull
Ah, bah,
Salzbourg,
c'est ce que tu étais
justement.
en train
D'où
de dire.
le.
C'est ce que
Voilà,
tu
d'où
étais en train
le.
de dire.
En fait, si tu veux, Leipzig, pour se sortir des crocs de la règle de l'UEFA, bah, si tu regardes, le RB ne veut pas dire Red Bull, mais Rasenball. Alors, on sait que c'est affilié Red Bull, mais dans les faits, ça ne l'est pas parce que
Voilà, mais ce
ça
que
appartient
vous.
à un groupe de supporters et le groupe de supporters sont des employés Red Bull. Donc, c'est vraiment très vicelard. Très,
Voilà,
très vicelard.
enfin, mon point étant que ça peut s'organiser de toute façon. Ça a été fait. Alors peut-être qu'ils en profiteraient pour taper parce que ce serait un peu plus visible que Salzbourg contre Leipzig, quoi. Mais
Ouais, mais j'ai
ça
pas
peut
envie de devenir le
s'organiser.
Salzbourg.
Et QSI, en tout cas, mon point étant que QSI n'est pas encore parti. On est vraiment un peu dans des projections ici. Et encore une fois, l'offre de Manchester, pour rappel, celle d'Ineos, pour l'instant, donc on est au troisième tour d'enchères, et celle d'Ineos, pour l'instant, aurait la priorité. C'est pas encore décidé, mais bien que le Qatar ait présenté, il soit pas out, hein, mais l'offre d'Ineos aurait la priorité. Donc le Qatar n'a pas encore pu accéder à Manchester United. Ok, mais messieurs. Tu ah bah vas-y,
Ouais,
vas-y.
juste simplement par rapport à ce que dit Grégory et du coup
Alors.
Jamy aussi, je suis d'accord, mais je dissocie les deux. Et il faut aussi rappeler que par rapport à l'âme du club, quand le Qatar arrive, le club est déjà un peu au bord du précipice. Il n'y a personne dans les tribunes, il y a eu le plan Le Prou. Donc, tu vois, ce n'est pas non plus que le Qatar qui a mis le club en difficulté, on va dire, par rapport à son âme et ses valeurs. C'était déjà très compliqué avant. Il y a eu énormément de problèmes. Mais simplement, je dissocie les deux, même si je ne suis pas d'accord et je suis d'accord avec vous par rapport à l'âme du club. J'en parle très souvent. Mais je dissocie les deux par rapport au palmarès. Et c'est pour ça d'ailleurs que s'ils partent, ben, bon vent.
D'accord. Tonton, tu voulais dire un truc sur ta chaîne vite fait?
Ouais, non, j'allais dire pour ceux que ça intéresse, j'ai ouvert ma propre chaîne qui s'appelle Tonton Baller. Je vais mettre justement le commentaire, je vais le mettre en live directement dans le chat. Bah, demain, on se donne rendez-vous à 13h justement dessus. On parlera des joueurs libres les plus intéressants. On se retrouvera également mardi à 23h pour le débrief en live de Real Madrid, Manchester City. Et de toute façon, si vous me suivez sur les réseaux, je mets les plannings de mes lives très régulièrement. Et allez vous abonner à Rekoba aussi, parce que lui aussi, il a une chaîne et elle est
Tu
bien à
pointes
lui
vers
aussi.
moi là.
Non, non.
Et... Ah ok, d'accord, parce que moi tout va à l'envers. Et sinon, oui, je voulais juste dire à Grégory, mais il reconnaîtra sans doute les places pour aller au parc offertes en panier surprise quand t'allais prendre un menu chez Quick. Ceci dit, messieurs, bah, écoutez, merci d'avoir fait le live. Le reporter ou l'intervenant RMC n'a pas pu nous rejoindre, tant pis, ce sera pour une prochaine. J'espère que vous avez tous passé un bon moment. Si, ceux qui n'ont pas liké, en vrai, faites-le pivoter votre téléphone, prenez votre téléphone, je ne sais pas quoi, faites ce que vous voulez, mais appuyez juste sur le bouton. C'est juste appuyer sur un bouton, c'est pas compliqué. Et je vous remercie tous. Et ici, c'est Paris. Ciao tout le monde.
Ciao, ciao, merci le chat.